S'overbooker, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, je crois, pendant ce confinement, pendant ce télétravail plus ou moins forcé pour certains, pour certaines. C'est vrai que quand on n'a plus la possibilité d'aller parler avec ses collègues, de discuter, d'avoir, voilà, d'aller à la cantine, de faire des réunions aussi, pourquoi pas, eh ben, en fait, on optimise son temps de travail. L'optimisation, c'est quelque chose contre lequel j'essaye de lutter contre moi-même. D'abord, si vous avez lu mon livre, vous savez que j'en parle. C'est vrai que j'ai du mal à saisir comment le fait d'être overbooké, c'est un facteur clé de succès. Ça montre que quelqu'un réussit, ou à l'inverse, ne pas être occupé, ça veut dire que forcément la personne est en échec, qui sont des croyances idiotes et pourtant qui sont très ancrées dans nos sociétés. Et aujourd'hui, je reçois Raaf Harfouch, qui est une anthropologue numérique, qui est une Canadienne avec une origine plutôt anglo-saxonne, et on a énormément de chance parce qu'elle parle également français. Donc on a fait l'épisode évidemment en français. Elle a écrit ce livre qui s'appelle Overbooké en français. Et donc on va parler de tout ça, de cette culture du succès, de cette culture de l'optimisation. Et en particulier, vous le savez, si vous avez un iPhone ou un smartphone de manière générale, les applications de productivité sont celles qui sont les plus téléchargées. On a vraiment cette envie d'optimiser son temps, ce qui est une hérésie évidemment. Donc je vous laisse avec cette conversation et j'espère que vous prendrez justement le temps de l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti! Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Raaf.
Bonjour.
Donc tu travailles beaucoup sur cette question de productivité, mais aussi de créativité. Pour toi, pourquoi on est arrivé dans une société obsessionnelle sur la productivité? Ma question, elle est un peu anglaise parce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait questionner l'obsession, mais moi j'ai vraiment cette sensation qu'on est dans une société obsessionnelle sur la productivité.
Ben, je pense que c'est, je suis d'accord avec cette question. Et en fait, la réponse est un tout petit peu compliquée. C'est une mélange des systèmes que nous avons adaptés de notre passé, du période du temps où les gens faisaient un différent type de travail qui, pour la plupart des gens qui j'ai ciblé pour mes recherches, on s'appelle les travailleurs du savoir, knowledge workers, donc les gens qui travaillent dans un domaine où ils ont besoin de réfléchir, de résoudre des problèmes, de créer des nouvelles choses, des nouveaux produits, services, de collaborer ensemble. Donc, c'est un type de travail qui est pas comme les travails des anciens jours, où une personne travaillait dans une usine et faisait la même tâche en répétition. Donc, malgré le fait que notre travail a changé, nous avons gardé la théorie des systèmes de comment on pouvait mesurer la performance. Donc, déjà, les systèmes qu'on utilise pour mesurer la performance n'étaient pas faits pour nous, et ça nous oblige de toujours être en train de produire, mais de produire d'une manière qui a une définition assez précise. Ça veut dire, on doit vous voir travailler. On doit voir le résultat de ce que vous faites tout le temps. Mais pour la plupart de notre domaine, il y a une grande partie qui est pas trop facile à voir. Et c'est cette partie de réfléchir, de penser, de juste rien faire pour nous donner le temps de faire tout ce travail mental. Donc, ça, c'est la première partie de la réponse. On a des systèmes qui n'ont rien à voir avec la réalité du travail qu'on fait aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est que, en plus, en même temps qu'on a commencé à utiliser ces systèmes, on a aussi créé des attentes personnelles où on a commencé à lier notre sens de valeur en soi avec cette idée de toujours être en train de travailler, de toujours être productif. Donc, c'était pas seulement une caractéristique du travail. La productivité est devenue une caractéristique personnelle de comment on se voit, de comment on a donné une définition de si une personne est une bonne personne ou pas. Si une personne est productive, c'est quelque chose de positif et on parle de la productivité personnelle avec cette perspective de positivité. Donc, tout d'un coup, on a des systèmes qui, en fait, ne marchent pas, qui nous donnent du burn-out, qui nous fait malade, nous rend malade. Et en plus, on complique les choses parce qu'on dit que si on ne participe pas dans ces systèmes, que notre sens, notre idée de notre identité, notre place dans la société, notre valeur comme une personne, la valeur ajoutée à la société est aussi réduite. Donc, c'est quelque chose qui est assez émotionnellement puissante, qui explique pourquoi, malgré le fait que tout le monde sache qu'on ne devrait pas travailler jusqu'on devient malade, il y a des gens qui trouvent ça très dur et qui continuent à pousser jusqu'ils sont plus capables de travailler du tout.
Et toi, tu es américaine?
Canadienne.
Canadienne, pardon, excuse-moi. C'est pas du tout la même chose. J'ai habité à New York, qui est une ville, j'imagine que tu connais, dans laquelle la productivité est à son comble. C'est-à-dire que tu as besoin d'être... c'est marrant, dès que je parle de New York, les mots viennent en anglais, mais tu as besoin d'être occupé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une ville où j'ai rarement vu ça, mais c'est-à-dire que c'est une occupation permanente du matin au soir, et c'est une optimisation, surtout de l'optimisation. Moi, c'est ce mot qui me fait un peu peur, ou en tout cas que j'essaye de fuir au maximum, mais c'est une optimisation permanente de ton temps, et même une optimisation quand tu vois tes amis. Est-ce que c'est cette culture américaine, je ne sais pas si c'est une culture américaine d'ailleurs, qui vient aussi en Europe de l'optimisation permanente? Est-ce que c'est aussi une peur du vide, peut-être?
Ben oui, c'est donc si on continue avec cette pensée, avec cette théorie ou cette philosophie que les gens commencent à lier leur propre valeur en soi avec leur travail, donc la prochaine étape devient que je dois toujours être occupée. Parce que si je suis toujours occupée, je suis importante, j'ajoute la valeur, et aux États-Unis, ils ont créé une culture où si vous n'êtes pas productif, c'est du temps gaspillé. Donc, comme on a cette idée du succès, que si on veut avoir du succès, si on veut réussir, on doit travailler très fort, on a aussi absorbé l'inverse de cette idée, que si je ne suis pas toujours occupée, si je ne suis pas toujours en train de faire mon mieux pour réussir, ça veut dire que c'est ma faute que je ne réussis pas. Donc encore, c'est ces deux éléments. La première, que c'est si je suis occupée, ça veut dire que je suis importante, parce qu'on regarde les gens qui sont très occupés dans la société et on dit waouh, regarde, ils sont tellement en train de réussir. Et aussi, si moi je suis pas occupée, ça veut dire que je suis pas en train de poursuivre mes rêves avec une intensité où je vais réussir. Donc, quand j'étais à New York avant COVID, j'étais là pour un week-end et j'ai vu ce phénomène qui était très bizarre, parce qu'on était un dimanche, donc le jour de repos. Et j'avais un ami et il me disait, OK, ben voilà le programme pour dimanche. Il y a quatre événements avec quatre différents groupes des amis. On va passer une heure ici, une heure ici, une heure ici, 45 minutes là. Et je me rappelle, je disais, mais ça m'a étonnée. J'ai dit, mais pourquoi ça a l'air en fait d'être un peu stressant? Et pour eux là-bas, c'est aussi, en New York, il y a aussi beaucoup de FOMO. Donc, comme c'est une ville où il y a toujours des choses qui sont en train de passer 24 heures sur 24 heures, les gens ont toujours cette idée que s'ils sont pas en train de participer, ils sont en train de rater des opportunités de networking, de rencontrer des gens, de faire des choses. Donc, c'était toujours en train avec cette idée de poursuivre le succès. Et je pense que la raison que cette philosophie rentre en Europe, C'est parce qu'il y a aussi des grandes sociétés multinationales qui viennent en Europe avec cette idée de succès de travail qui est plutôt américain. Mais aussi, si on regarde les grandes entreprises de technologie qui ont la plus de puissance, ou au moins qu'on reconnaît au niveau des marques, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Donc, toutes ces sociétés, ces entreprises, ils réussissent. Et donc, on a commencé à changer notre définition de succès pour être une définition qui est assez influencée par les entreprises américaines qui apportent avec eux leur propre philosophie de la productivité qui a, comme j'ai parlé avant, toute cette histoire et cette idée de lier la valeur en soi avec le succès. On commence à je ne sais pas comment dire ça en français, à « worship », à…
Dis-le en anglais.
to worship. On est obsédé par les vies personnelles des patrons du groupe, de Jeff Bezos, de Bill Gates, de Mark Zuckerberg. On veut savoir quand est-ce qu'ils se lèvent le matin, comment est-ce qu'ils travaillent. Donc, tout ça, c'est devenu une partie de notre culture de travail, malgré le fait qu'ils ne sont pas des sociétés, ils ne sont pas des entreprises françaises, que leur mode de succès n'est pas super lié à la qualité de vie qui est une grande partie de la vie française. Mais malgré tout ça, on est en train quand même d'absorber ces idées que moi, je pense, sont assez toxiques et qui sont une collection de mensonges qu'on est en train de voir, de lire, de croire. Et c'est ça où ça devient très dangereux, parce que malgré tout l'effort de la culte de la productivité de nous convaincre que si on travaille comme ça, on va réussir, la vérité est l'opposé. On a le burn-out, on a l'épuisement professionnel d'un état qui était imprévu, et particulièrement pendant le pandémique. Les gens ça marche pas. Donc, c'est ça qui est ironique, en fait, c'est que malgré toutes ces histoires de « regarde monsieur ou madame, patron de groupe, elle se lève à 4 heures le matin, elle travaille pendant 16 heures, bravo », malgré toutes ces histoires, la réalité nous montre que ça ne marche pas.
Et alors, c'est ça qui est intéressant. Il y a cette expression, entre autres, sur laquelle je voulais te faire réagir, qui est « work hard, play hard », mais tu vois, qui est partout dans les startups et en particulier dans la Silicon Valley, entreprise auxquelles tu faisais référence. J'aimerais bien comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu affirmes que ça ne fonctionne pas. Je pense que évidemment, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc, en réalité, j'ai un problème avec le vide. Donc, tu vois, j'entends tout ce que tu dis et je sais que toi, tu étais là aussi. Comment tu fais pour te libérer de cette pression sociétale, de cet imaginaire, finalement, autour de la performance?
Je pense que cette expression « work hard, play hard », je sais que beaucoup de startups l'utilisent, mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils le comprennent. Parce qu'en réalité, quand on parle de « play hard », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de jouer, de reposer. Donc, en fait, la réalité de l'expression, c'est « work hard, recover hard ». Donc, moi, je suis pas en train de dire aux gens, parce que moi aussi, j'ai de l'ambition, j'ai plusieurs projets que je veux faire, je suis pas en train de dire aux gens de ne pas travailler fort. Mm-hmm. Je suis en train de dire que la manière, les stratégies qu'on utilise pour travailler fort ne marchent pas. Et donc, pour toi, si toi, tu as des problèmes avec le vide, ça veut dire que tu as pas encore fait le lien que de récupérer avec une intentionnalité, ça veut dire intentional recovery. C'est pas juste que je ne travaille pas, hein, c'est que je prends le temps stratégiquement pour vraiment récupérer l'énergie que j'ai dépensée. Et le problème, pourquoi la manière qu'on travaille chaque jour ne marche pas pour nous, c'est qu'on ne prend pas ce temps. On travaille, on dépense l'énergie. Si on imagine qu'on a un réservoir, je ne sais pas si le bon mot est pour les écouteurs, j'espère que vous êtes en train de comprendre mon français, je fais vraiment l'effort.
Tout va bien.
Donc sinon, je m'excuse si je fais des gaffes, j'espère que vous allez m'excuser. Mais si on a cette quantité d'énergie qu'on puisse dépenser ça chaque jour, après qu'on utilise toute cette énergie, logiquement, on doit prendre du temps pour renouveler cette énergie. et les systèmes de productivité maintenant ne nous donnent pas le temps pour récupérer cette énergie. Donc, logiquement, comme s'il y a une voiture, et on n'est pas des voitures, mais c'est juste un exemple, quand la voiture n'a plus d'essence, on fait quoi? On continue à conduire? Où est-ce qu'on prend le temps d'aller pour acheter plus d'essence? Et en fait, le système de productivité, c'est basé sur une idée de travail sans arrêt. Ça s'appelle en anglais « continuous output ». Ça veut dire qu'on est en train de produire sans arrêt visiblement. Mais en réalité, nos cerveaux, nos corps, notre capacité de réfléchir, notre capacité de se concentrer est limitée. On ne peut pas faire du travail très dur mentalement pendant 8 heures sans arrêt. Et je vous demande, il y a un défi, je vous demande de me dire si je me trompe. J'aimerais bien voir la personne qui dise qu'ils peuvent honnêtement faire du travail pendant 8 heures sans arrêt sans perdre la qualité du travail, sans faire des erreurs. Parce qu'on sait, ça c'est la recherche scientifique, c'est pas mon opinion, c'est la science des recherches scientifiques qui ont été faites plusieurs fois, des centaines de fois dans des différents pays par des différents scientifiques. On sait que quand on devient fatigué, après 6 heures pour le travail créatif, hein, c'est même pas les 8 heures qui est cette idée de 8 heures qui a été inventée, mais après 6 heures, la recherche, ça dit qu'on commence, la qualité du travail commence à baisser, on devient de travailler plus lentement et on commence à faire plus d'erreurs. Donc, pour moi, quand je travaille avec des gens, avec des entreprises, avec des gens qui ont d'ambition, c'est pas que je les dis, il ne faut pas travailler fort. Je dis qu'il faut travailler stratégiquement, il faut travailler en utilisant une philosophie de travail qui était faite pour le travail créatif, pour le travail mental. Donc, si moi avant, j'avais beaucoup de mal avec ces périodes vides de rien faire, mais maintenant, j'ai commencé à apprendre que stratégiquement, ces périodes de repos sont une de mes meilleurs outils pour pouvoir faire mon meilleur travail. Quand je prends le temps scientifiquement, j'ai fait les recherches sur moi-même. J'ai pris le temps, par exemple, chaque 2 heures de prendre 30 minutes, qui à l'époque me semblait d'être complètement fou. Hein. Comment est-ce que je peux prendre 30 minutes à rien faire? Mais je me suis rendu compte que cette période de 30 minutes de repos me permettait d'avoir des périodes de travail où dans 2 heures, je faisais ce qu'avant me prenait 4 heures. Parce que c'était 2 heures où j'étais à 100%, pas 16 heures, 12 heures, 10 heures où je commençais à 100% et puis à la fin de la journée, j'étais à quoi 20% de mon capacité de réfléchir. Donc pour moi, ce que j'aimerais dire aux personnes, c'est qu'on doit inventer des nouveaux systèmes de travailler qui étaient faits pour nous, qui étaient construits pour travailler avec notre créativité, pas contre. Parce que s'il n'y avait pas de soucis, on n'aurait pas de burn-out. Mais clairement, le World Health Organization a déclaré en 2019 que le burn-out était quelque chose, l'épuisement, le surtravail, l'épuisement professionnel était un problème global qui coûtait l'économie globale des milliards d'euros. Donc clairement, les systèmes qu'on utilise ne fonctionnent pas. Donc, est-ce que c'est logique de dire, OK, malgré le fait qu'on comprend qu'il marche pas, on va continuer de les utiliser? Donc, des fois, je comprends pas la résistance parce que ça marche pas.
Ouais, en fait, je pense qu'il y a une culpabilité derrière. Moi, ce que je vois, et je pense que l'expérience personne, en particulier avec le télétravail, moi, quand je me suis mis en indépendant, j'ai réalisé qu'en réalité, tu peux pas vraiment travailler 8 heures dans la journée. Quand tu es au bureau, finalement, tu discutes avec des collègues, tu vas et tu fais des réunions où t'as moins, en fait, on demande moins à ton cerveau de réfléchir. Mais quand vraiment tu es censé travailler, effectivement, de faire du travail créatif, c'est impossible. Enfin, je veux dire, personne ne peut travailler. Et je pense que c'est effectivement un mythe. Mais il y a aussi cette culpabilité de rien faire. C'est-à-dire, tu vois, d'aller se balader, par exemple, prendre le temps. Et il y a cette question que je voulais te poser, que j'ai entendue sur ce podcast qui s'appelle Hurry Slowly, donc se dépêcher d'aller lentement, finalement. Et qui dit qu'est-ce que je suis quand je ne fais rien? Et donc, je voulais te poser cette question. Qu'est-ce que tu es quand tu ne fais rien? C'est une question hyper compliquée finalement. Hein.
Bah, tu sais, c'est drôle parce que là, je me suis posé cette question pendant mon burn-out que j'ai eu il y a quelques années, donc je sais très rapidement la réponse, mais je vais te dire que ça m'a pris des mois de réfléchir pour arriver à cette réponse. Je suis moi-même, je suis Raph. Et je dis ça parce que quand j'ai eu mon propre période de épuisement, j'avais cette crise d'identité. Parce que je me suis pas rendu compte avant ce moment le montant que j'avais à lier mon identité au fait que de mon travail, que j'étais écrivaine, que I'm a writer. Et quand on regarde par exemple sur LinkedIn et même comment on écrit notre propre biographie, vous savez les conférences, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on écrit ça? On dit Greg is.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Rahaf c'est très is. Bizarre.
Donc, Rahaf est une anthropologue, Rahaf est une écrivain, Rahaf est. Mais le fait que j'écris, ça ne veut pas dire que moi, je suis comme identité complète une écrivain. Et en fait, quand j'avais mon burn-out, je ne pouvais pas écrire. J'étais incapable d'être créative. Donc, tout d'un coup, je me suis demandé des questions assez dramatiques à l'époque qui étaient mais qui suis-je si je ne peux pas écrire? Comment est-ce que je vais contribuer? Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un? Je vais dire ça en anglais, je vais répéter en français. But what do you do with a writer that can't write? Qu'est-ce qu'on fait avec un écrivain qui n'est pas capable d'écrire? Et ça m'a vraiment choquée. Et finalement, dans cette période de temps où j'étais incapable de travailler, je devais faire face à cette idée, cette possibilité qui était très terrifiante, qui me fait très peur, qu'il y avait une possibilité que je vais jamais récupérer ma capacité de pouvoir faire des travaux créatifs. C'était à cet niveau d'intensité que j'étais épuisée. Et finalement, dans cette période de temps où me rencontrer à nouveau, de créer une identité sans aucun parti de travail. Et finalement, en anglais, quand je raconte cette histoire en anglais, je me suis rendu compte que c'est possible de dire Rahaf is period, que c'est une phrase complète, que moi, je suis capable d'être un être humain sans avoir aucun travail, sans être productive, que moi, que j'ai du valeur comme un être humain, même si j'ai pas la capacité d'écrire un mot pour le reste de ma vie, que ça va, que mon valeur comme un être humain n'est pas liée à mon productivité. Et bizarrement, pas bizarrement, parce que heureusement que j'ai récupéré ma capacité d'écrire, mais ça m'a changé la perspective complètement. Parce que moi, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, je trouve mon travail d'être très intéressant. Si je pourrais, je suis capable de travailler sans arrêt parce que je trouve ça très intéressant. Mais je me suis rendu compte que premièrement, si je travaille sans arrêt, ça me permet pas de faire la qualité de travail que j'aimerais faire, que j'aimerais produire. Donc, j'ai fait le lien entre intentional recovery, de récupérer avec une stratégiquement et avec le travail. Et deuxièmement, malgré le fait que j'adore mon travail, c'est plus lié à mon sens de mon propre identité. Donc, moi, sans faire rien, c'est moi-même, ça va, c'est Raph. Même si j'assois dans mon jardin sans rien faire, même sans lire un livre, même sans regarder la télé, même sans rien faire, ça va.
C'est marrant, ça fait penser, tu sais, quand tu rencontres des personnes, que ce soit aux États-Unis, en France, mais j'imagine dans les autres pays, on te demande très rapidement, c'est l'une des premières questions, c'est assez ennuyant, mais c'est comme ça, et toi, tu fais quoi? Et en fait, ça serait une super réponse de dire « je suis ».
Et c'est ça. En français aussi, que j'ai trouvé un peu marrant, c'est que ils demandent en français, j'ai été demandé cette question, tu fais quoi dans la vie? Et ça, mais ça, c'est une question difficile. Je fais quoi dans la vie? Je ne sais pas, je vais à la boulangerie, je mange des croissants, je me promène avec mon chien, je ne sais pas. Et c'est très drôle parce que si vous répondez à cette question « tu fais quoi ?» sans parler de votre vie professionnelle, les gens, ils ont un, sont pas confortables. Il y a une bizarre tension qui se présente. Et maintenant, ça, c'est une des questions que dans mon livre, dans Overbooké, j'ai écrit sur ce sujet, qui était de commencer à faire attention, de ne pas demander cette question à ces personnes et de voir. Et l'autre expériment que vous pouvez faire, qui est super drôle, parce que je le fais tout le temps, c'est que quand les gens vous demandent comment était votre week-end, comment, qu'est-ce que vous faites, machin, c'est de dire j'étais pas occupée. I wasn't busy. Et ça, c'est pas, tu vois, les gens, ils arrêtent. Moi j'ai eu beaucoup de temps. J'ai pas fait grand-chose. Et de dire ça avec un genre de paix, de sérénité, ça, au moins avec mes amis, quand j'ai commencé à le faire au début, c'était un peu choquant. Parce qu'on a tellement l'habitude de dire « Ah oui, j'ai fait ça », ou dire « Mince, je suis coupable parce que j'ai pas eu un week-end productif ». Donc, c'est de commencer à challenger ces idées parce qu'en fait, si tu me permets de expliquer, il y a un phénomène sociologique qui s'appelle en anglais work devotion, donc la dévotion au travail, où qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé des habitudes sociales, je ne sais pas entre ça.
T'inquiète pas, sociales.
Sociales, merci, mais tu dois me corriger parce que ça, pour le reste de ma vie, masculin, féminin, je ne vais jamais arriver, mais voilà, des habitudes sociales.
Tu parles beaucoup mieux français que beaucoup de français
c'est
par anglais.
C'est tellement gentil, merci, je fais tellement l'effort, mais c'est ces derniers 10%, 5% que je pense, bref. Donc, des habitudes sociales où on communique avec nos amis que nous, on a du valeur, qu'on est en train de poursuivre notre succès, qu'on mérite de réussir basé sur notre histoire et notre dialogue verbal, qu'on souffre et qu'on sacrifie beaucoup pour notre travail. Donc, quand tu me demandes comment vas-tu et quand moi je dis, oh mince, je suis tellement occupée, j'ai une dizaine de projets, j'ai fait une centaine de tâches, je cours partout comme une folle. Ce que je suis vraiment en train de dire, c'est regarde, je suis en train de travailler fort parce que je sais que si je travaille fort, si je ne travaille pas fort, je vais pas réussir. Je veux que tu vois que je mérite mon succès. Je veux que tu vois que moi j'ajoute la valeur et que moi j'ai du valeur comme être humain. Et donc, c'est pas juste le fait qu'on dit ça pour s'amuser, hein. J'ai pas dit je suis occupée pour s'amuser. On est en train de communiquer des messages qui sont assez profonds. Donc, quand on commence à challenger ces messages, ça devient un peu de tension parce qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est devenu tellement normal de se plaindre qu'on est tellement occupé. Mais derrière nos plaintes, il y a une fierté. On est fier d'être occupé. On se sent bien qu'on a un calendrier, qu'on a un agenda chargé. C'est cool d'avoir 12 Zoom. J'avais une amie qui me disait avec du fierté qu'il gérait une équipe et sur son agenda, il avait donné la permission à son équipe de réserver des réunions avec lui entre 7 heures le matin et minuit. Il m'a dit ça avec la fierté. Et ça, j'ai dit, excusez-moi, mon ami, ou tu as un problème avec gérer ton temps, ou tu as des problèmes dans ta vie perso, mais ça, c'est pas normal et ça devrait pas être le standard. Si tu as besoin d'avoir des réunions à minuit, ça veut dire que t'es pas très bien calculé le montant de temps que ça va te prendre pour compléter des tâches, qui est un problème de ressources, de temps, ou tu as un problème de attention de comment tu passes ton temps. Et ça, c'est une discussion assez difficile. Donc, on peut aussi discuter plus tard, si tu veux, de comment ces dynamiques de work devotion se présentent dans des groupes des amis. Parce que même avec des collègues, c'est assez dur, mais avec des amis, c'est vraiment difficile de commencer à parler avec des choses parce que tu vas rencontrer une résistance. Parce que si tu commences à faire du pushback, si tu commences à challenger, à dire « mais est-ce que tu as vraiment besoin d'être occupé comme ça ?» les gens vont devenir fâchés, contrariés, parce qu'en fait, tu es en train de questionner leur valeur en soi.
Complètement. Tu sais, j'ai écrit un livre aussi et j'ai une de ces phrases qui dit « mais je suis tellement occupé Et en fait, je pose la question, depuis quand être occupé, être overbooké finalement, enfin, c'est un facteur clé de succès, un KPI, on dirait en anglais. Et c'est très étrange parce que c'est effectivement ça qui se passe, c'est-à-dire aujourd'hui, on associe le bonheur au succès et le succès à la performance et donc au fait d'être occupé. Et c'est ça qui est très étrange. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette notion de performance, de succès et de bonheur. Comment on en arrive et comment toi tu as déconstruit cette idée d'associer le bonheur à la performance?
Bah, c'est une question, ça m'a pris beaucoup
Compliqué,
de temps à le faire. Tu me demandes
hein?
des grandes questions qui ne sont pas super faciles, hein.
Non,
Mais
non.
c'est cette sens de valeur. C'est cette sens de valeur parce que on a même en France, parce que dans Overbooké, je parle, il y a des sociologues français qui ont fait beaucoup de recherches sur l'idée du bonheur, sur l'idée du, je vais essayer de dire en français, la moralité de l'âme d'une personne, like the morality of the soul. Si tu es une bonne personne, même pas si tu travailles fort, si t'es pas capable, pas compétent, mais si tu es une bonne personne, on a toujours lié ça avec cette idée du travail. Et ça, en fait, a des origines dans des religions. Donc, les
D'accord.
chrétiennes, tout ça, c'était beaucoup écrit que si on travaille fort, c'est une signe de, comment, je me rappelle pas maintenant de l'expression, mais il y a cette expression en anglais, the devil uses idle hands. Je ne sais pas si tu vois,
Non.
c'est que quand on fait pas grand chose, quand on ne travaille pas, ça donne l'opportunité au
Ah.
diable d'intervenir. Donc, c'est vraiment cette idée que si on travaille fort, on est en train de suivre le chemin du bonheur, le chemin du Dieu. Et quand on ne travaille pas, quand on est paresseux, par exemple, c'est le diable qui est en train de se présenter dans nos gestes, dans notre comportement. Donc, c'est vraiment, c'est une histoire historique et c'est
It's rooted.
pourquoi quand j'ai écrit Overbooké, j'ai présenté ce problème comme un problème holistique. Donc, c'est pas juste, on doit changer les systèmes de travail, ça c'est une partie, mais on doit aussi changer la manière qu'on parle à nos amis, donc la partie sociale, oui, ça aussi, mais il y a aussi cette idée des idées que nous avons absorbées pendant des centaines d'années au niveau de la bonheur. Au niveau le bonheur, au niveau du bonheur. Et donc, je pense que on doit vraiment commencer à questionner notre propre relation avec le travail. Et c'est ça qui est vraiment dur parce que on se rend compte qu'on a beaucoup des idées sur notre propre identité qu'on a créée pendant notre vie, mais qu'on n'a jamais questionné. Donc, où est-ce que mes idées de succès, où est-ce que j'ai eu ces idées? Qui m'a raconté des histoires de comment on réussit? Qui est-ce que sont les gens que j'admire? Qu'est-ce que moi je crois c'est possible qu'est-ce que je dois faire pour avoir du succès? Donc, quand on commence à se demander ces questions, et dans le livre, il y a un chapitre avec une liste des questions qu'on peut se poser, on commence à voir qu'on a des idées qui étaient, je parle d'un genre de operating system, comme sur un portable, le OS, tu sais. Donc, on avait des logiciels qui étaient installé chez nous sans qu'on ait courant. Donc, si on ne va pas dans le programming, si on enlève pas ces idées qui étaient implantées, qui étaient mises sans notre accord, on ne va jamais pouvoir vraiment changer notre comportement. Parce que si dans ton cœur, tu penses vraiment que le bonheur, que ton bonheur comme une personne, ton âme, your soul, est quelque chose qui est lié aux intensités avec lesquelles tu travailles, même si je te dis une centaine de fois que tu dois te reposer, tu vas pas le faire. Et c'est ça pourquoi on prend des actions qui sont contradictoires, des actions qui nous font mal, des actions qui nous rendent malades. C'est parce que dans notre cœur, il y a un conflit entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Donc, si toi, tu crois que si tu travailles pas, tu vas pas réussir, bah, tu vas jamais te laisser prendre une pause. Tu vas toujours te pousser. Et c'est ça, en fait, que je trouve, c'est une vraiment, j'ai utilisé un grand mot, mais vraiment une tragédie. C'est une tragédie qu'on fait ça aux gens, parce qu'il y a un livre que je recommande très fortement qui s'appelle Les cinq regrets des gens qui sont en train de... The five regrets of the dying. Je ne sais pas comment tu vas traduire ça.
Les cinq regrets des personnes mourantes.
Et c'était écrit par une infirmière qui travaillait dans une hospice où les gens vraiment allaient pour mourir. Les gens qui avaient des maladies super sévères, qui n'ont aucune chance de récupérer. Mm-hmm. Et pendant des années, elle écoutait à leurs regrets. Et il y a les cinq regrets qui sont les plus communs. Je vais essayer de me rappeler, mais c'était « Je regrette que je ne me suis pas donné la permission d'être heureux. Je regrette que je n'ai pas investi dans les relations avec les amitiés et la famille. Je regrette que je n'ai pas poursuivi une vie qui me plaisait moi, qui « a life that I wanted to live ». Et le quatrième, c'était « Je regrette d'avoir trop travaillé ». Donc, ce qui est vraiment triste pour moi, c'est que on donne ces mensonges sur Instagram. Il y a le hashtag 5am club, lève-toi à 5h le matin, travaille pendant 16h, tout ça. Mais en fait, les histoires des gens qui ont fait ça avant de mourir, ils le regrettent. Donc, tout le succès professionnel, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir un succès professionnel si, comme moi, par exemple, tous mes succès que j'avais réussi, écrit des livres, professeur, machin, mais ça n'a aucune valeur si mon corps, si j'ai perdu mon santé, si j'ai été pas capable d'investir dans mes amitiés. Et est-ce que moi, je vais me lever un jour à 80 ans si j'ai la chance d'être 80. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ne prennent pas soin de leur santé, qui meurent d'une crise cardiaque à 55, à 60, à 45, on ne sait pas. Est-ce qu'il vaut la peine d'avoir fait une vie comme ça et puis à la fin de ma vie de dire « Ah ben mince, j'avais vraiment l'envie, j'aurais dû passer plus de temps au bureau » ou si on entend les histoires des milliers de personnes qui ont raconté leurs regrets dans leurs derniers moments, c'est qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas pris le temps de profiter de leur vie. Et honnêtement, je te dis, c'est pourquoi une des grandes raisons que je suis venue en France, c'est que parce qu'en France, on a une philosophie de vivre qu'on ne trouve pas souvent aux États-Unis, au Canada, et que moi, avec le travail maintenant que je fais, je suis vraiment investie à le protéger. Parce qu'on ne doit pas regarder aux autres économies et dire on doit travailler plus. Ça ne marche pas.
Et tu prends d'ailleurs cet exemple entre le Japon, les États-Unis et la France. On sait qu'en France, on est très productif comparé aux autres pays, alors que c'est vrai que pour un Américain particulièrement, mais pour un Japonais également, on se rend compte que nous, on a beaucoup de congés. Et pourtant, la productivité est supérieure en France. C'est peut-être quelque chose d'ailleurs que les Français ne savent pas précisément.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, la productivité, c'est pas juste le numéro des heures qui sont travaillées, c'est la capacité de qu'est-ce qu'on produise. Et si on produit quelque chose dans les 40 heures, dans les 40 heures, honnêtement, c'est après ça, on devient épuisé et puis notre capacité de travailler est diminuée.
Ouais, réduit à zéro quasiment.
Super. Donc, si au Japon, ils sont en train de travailler 120 heures par semaine, mais nous, on est en train de produire plus, c'est logique. Et en fait, c'est ça le point qui est super intéressant et c'est ça le point que je voulais explorer dans le livre. C'était que malgré le fait qu'on voit les recherches qui disent qu'en France, on est plus productive qu'au Japon, pourquoi est-ce qu'on se pousse pour travailler tellement fort? Et la réponse à cette question, c'est à cause de ces valeurs culturelles qu'on a absorbées, qui nous présentées dans les médias, dans cette obsession qu'on a avec les PDG des grands groupes, tout ça. Donc, malgré le fait qu'on a la recherche qui nous dise, ça va, vous êtes plus productif, on est toujours en train de suivre ces histoires parce que si je travaille pas, je suis pas une bonne personne. Si je travaille pas, ça veut dire si je travaille pas sans arrêt, si je travaille pas à l'extrême, je mérite pas mon succès, je mérite pas réussir. Et au Japon, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des différences culturelles, parce que là-bas, c'est pas seulement de travailler pour une valeur de soi, c'est de, le travailler sans arrêt, c'est une geste de respect pour l'équipe. Et si on prend du congé, si on prend une journée de maladie, par exemple, c'est comme on a trahi notre équipe.
Ah, c'est hyper intéressant, effectivement, parce que c'est culturellement très différent.
Et au Japon, et je vais pas, je sais pas les les mots en japonais, clairement, je parle pas japonais, mais il y a une expression, donc, au lieu de dire, par exemple, bonjour ou au revoir, bonne journée à la fin de la journée, il y a une expression qui se dise, la personne qui part en premier, c'est une expression qui veut dire, je m'excuse, je serai la première à partir. Parce que la première à partir, tu sais, il y a une, c'est un peu, c'est des fois il peut avoir des tensions. Donc, quand on veut partir, s'il y a des collègues qui restent dans le bureau, il y a une expression en particulier qu'on dit pour s'excuser d'être la première à partir. Et la personne aussi répond, bah merci beaucoup pour avoir travaillé forte. Donc encore de cette idée de work devotion, la dévotion au travail. Tu vois même au niveau de la langue, au niveau des expressions utilisées. Je m'excuse pour être la première à partir. Ben, mais même ça, c'est bizarre.
Tu sais qu'en français, on a une expression aussi qui est quand quelqu'un part, par exemple, à 18h du travail, on va lui dire « Ah bon, bah, tu prends ton après-midi
oh, ?» Non, je ne savais pas. Mais c'est la langue, c'est dingue. C'est vraiment… mais c'est ça. Donc, c'est ça où on parle. Parce qu'il y a des entreprises qui disent ben, « On va donner des congés, on va faire ça, on va faire ça. » Ou il y a des gens qui disent ben, « On doit changer les politiques dans l'entreprise. » Mais ce n'est pas ça, en fait. C'est des expressions comme ça. Ah, tu prends ton après-midi.
C'est extrêmement blessant. Et en fait, tu sais, j'ai un épisode que j'ai enregistré il y a quelques temps qui disait « Travailler plus pour gagner quoi ?» Parce que, évidemment, derrière cette notion de travailler beaucoup, je pense que les personnes qui écoutent vont se dire « Oui, mais moi, c'est pas que j'ai envie de travailler beaucoup, c'est juste que je suis contrainte pour gagner de l'argent, pour être compétitif dans mon travail, pour pour aussi, il y a quand même cette logique en France de rester tard le soir dans les bureaux. Il y a encore des entreprises dans lesquelles, tu vois, c'est, par exemple, les entreprises dans lesquelles la sieste est permise, c'est quand même extrêmement rare. Il n'y a pas d'espace pour faire la sieste. Et puis même si tu fais la sieste sur ton bureau, c'est pas très bien vu. On reste tard le soir, Et il y a quand même cette logique autour de je travaille pour gagner plus d'argent. Et en fait, ce que toi tu dis, il me semble, et ce que tu explores dans ton livre, c'est justement que, c'est ce que tu as dit au tout début, cela dit, mais j'aimerais bien revenir dessus, c'est que finalement, tu peux travailler en travaillant mieux, c'est-à-dire en te donnant le temps, en prenant le temps de te reposer, en fait, tu es meilleur. Et donc, en étant plus créatif, tu es plus productif. Ou la créativité est plus importante que la productivité. Je ne sais pas exactement comment tu le...
Ben, le système, c'est qu'on doit créer des systèmes de productivité qui soutiennent la créativité au lieu d'épuiser la créativité. Parce que les systèmes qu'on utilise maintenant épuisent la créativité. Et on peut créer des systèmes qui soutiennent qui aide la créativité. Et en fait, c'est drôle parce qu'on doit aussi parler de la responsabilité personnelle et la technologie. Par exemple, même si moi, je travaille très forte toute la journée, disons que je travaille dans une entreprise où mon patron insiste qu'on reste tard, machin, tout ça, OK. Est-ce que quand je prends mon déjeuner, est-ce que je me donne l'opportunité de vraiment prendre une pause? Et je sais, les Français sont très doués à faire ça. C'est une qualité que j'admire, que je trouvais super. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je suis sur mon portable en train de répondre à des mails et des messages? Quand j'arrive chez moi, disons à 19h, est-ce que je vais laisser mon portable à côté ou est-ce que je suis en train de regarder la télé, mais j'ai aussi le portable et je suis aussi en train de répondre à des messages des collègues? Donc, en fait, on se donne jamais l'opportunité de déconnecter et on a besoin des périodes de déconnexion, aussi des technologies, parce que on n'a pas parlé trop de la psychologie, de ce que font les iPhones, et l'idée d'être toujours stimulé, d'avoir toujours des messages, les réseaux sociaux, des interruptions, tout ça. Donc, si on est des créatives, on utilise notre créativité pendant la journée au travail et puis on vient et pour plus de personnes, je vois ça avec mes amis, même en France, même le soir, ils sont en train de répondre à des emails. Et quand je les demande, mais vraiment, dites-moi, est-ce que le message que tu es en train de à répondre, est-ce que c'était vraiment urgente ou est-ce que la réponse a pu attendre jusqu'à le lendemain? Mais vraiment, c'est quoi cette urgence de répondre tout de suite? C'est une attente qui a été créée par les réseaux sociaux où tout le monde est disponible tout le temps. Et maintenant, dans le pandémique, c'est pire parce qu'il y a des gens qui sont, on est dans le confinement, les gens qui sont à la maison, donc peut-être ils sont ennuyés, peut-être ils sont stressés, peut-être ils ont rien d'autre à faire. Donc, c'est facile d'utiliser les technologies, les portables, tout ça, pour juste avoir quelque chose, avoir une stimulation. Honnêtement, si tu es une professionnelle qui travaille dans un domaine, on doit commencer à redéfinir le performance d'une manière qui nous permet d'atteindre le plus haut qualité du travail qu'on peut. Et si on veut traiter notre créativité comme une ressource qui est notre ressource qui est le plus valable, parce que c'est, on dépend pour notre créativité, pour être rémunéré, on a besoin de parler avec les clients, de trouver des projets, de faire des trucs, de collaborer. Donc, je comprends pas pourquoi on traite la créativité comme ça, comme quand c'est une ressource qu'on a besoin. Donc, pourquoi pas créer une stratégie, une approche, une philosophie du travail où, par exemple, je suggère à mes clients une activité très simple, mais aussi très dure, c'est de choisir une période de 15 minutes, OK, de mettre à côté toute votre électronique et de juste rien faire. C'est pas de faire une méditation, c'est pas de se concentrer sur la respiration, c'est pas d'essayer de pas avoir des pensées. Non, mais vraiment, vous vous asseyez sur vos canapés, vous regardez à un mur et vous faites rien. Et dites-moi, après avoir fait cet exercice, quand d'autres dans votre journée, quand est-ce que vous vous donnez la permission, le temps pour votre cerveau de prendre une pause? C'est toujours la simulation. Je fais un email sur l'ordinateur, je prends mon portable, je bois mon café, je suis sur Instagram, je fais le dîner, je regarde de YouTube. On est tellement stimulé qu'on ne donne jamais à nos cerveaux l'opportunité de respirer. Donc, on n'a pas besoin, il y a des gens qui pensent « j'ai pas le temps ». On n'a pas besoin de prendre des heures et des heures de repos. Les vacances sont très bien, évidemment, on doit les prendre. Mais dans notre journée de travail, même 15 minutes avec une intensité de repos, ça peut vous changer la vie, honnêtement. Mais les gens trouvent ça trop dur parce qu'on est devenu dépendante sur cette stimulation des réseaux sociaux, la technologie, les messages qui arrêtent jamais. Donc, essayez cet exercice, premièrement. Et deuxièmement, je vais demander aux écouteurs et je vais demander à toi aussi, Greg, cette question. Si tu veux pas changer ton méthode de travail, dites-moi quand et où est-ce que tu penses de tes idées? Est-ce que c'est quand tu es devant ton ordinateur en train de répondre à une centaine d'emails? Ou est-ce que c'est quand tu es dans la douche ou tu fais la vaisselle ou tu fais quelque chose d'autre? Donc, dites-moi où est-ce que, quand est-ce que tu as tes idées? Parce que moi, pour ce livre, j'ai parlé avec beaucoup des salariés, des startups, tout ça. Et il y a des gens qui me disaient, j'arrive dans le bureau, je fais une journée de travail et puis c'est seulement quand je rentre chez moi que j'ai l'opportunité de réfléchir sur mes projets. Donc, clairement, il y a le système qu'on est en train d'utiliser ne marche pas. On doit arrêter d'utiliser ce système.
Moi, j'essaie de me donner l'opportunité de marcher. Je ne le fais pas tout le temps, mais j'essaie de me donner l'opportunité de marcher. Parce qu'effectivement, quand tu marches, c'est à ce moment-là où... Malgré tout, je suis un fervent défenseur du fait de ne rien faire parce que effectivement c'est dans ces moments-là que tu es créatif. Et encore une fois, je crois que quand tu es indépendant, tu te rends très rapidement compte, et je pense que les personnes qui sont en confinement et qui n'ont pas l'habitude de travailler chez elles c'est moi qui ai du mal avec le français maintenant, avoir du mal avec cette idée, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas être en permanence efficace. En fait, tu as l'impression quand tu vas au bureau que tu travailles toute la journée, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors qu'en réalité, quand tu es tout seul au travail, quand tu es tout seul chez toi et que tu travailles, c'est beaucoup et personne ne peut faire ça, en fait. Donc, tu es obligé de prendre des pauses, voilà. Et vas-y.
Mais je rigole aussi, mais tu sais que c'est pas possible d'éteindre ton cerveau. Même quand tu es, entre guillemets, pas en train de travailler, ton cerveau est toujours en train de réfléchir. Donc, si tu as des projets, des idées, quand tu vas te promener, c'est pas que tout d'un coup ton cerveau C'est ça. Mais c'est ça, mais tu ris, mais les gens, c'est comme on a l'impression que si on n'est pas en train d'être productive, en genre de, des actions ou des gestes qui sont visibles, donc je suis en train de taper, je suis en train d'être dans un rendez-vous, mais quand on est en train, quand nous sommes dans la douche, quand on est dans le jardin, quand on prend le promenade, en fait, quand on fait rien du tout, oui, peut-être notre corps est en train de pas faire grand-chose, mais notre cerveau est en train de toujours travailler. C'est pourquoi moi, par exemple, le matin, quand je sais que je vais bosser sur un chapitre, je monte, la première chose, je monte devant mon ordinateur, ok, j'ouvre un document vide, j'écris le titre du document, j'écris vraiment une phrase qui est « j'aimerais bien mentionner idée A, idée B, idée C », ok, puis je laisse le document et je redescends et je prends mon café tranquillement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pendant ces 30 à 45 minutes, c'est pas que mon cerveau n'est pas en train de travailler, c'est le contraire. C'est dès que j'ai mis cette idée dans ma tête, j'ai besoin de donner mon cerveau le temps pour créer les idées. Donc, je fais mon café, je promène mon chien, j'arrose les plantes. Et c'est drôle parce que une personne qui est obsédée par la productivité dirait, mais regarde qu'elle gaspille cette heure. Mais je te dis, honnêtement, depuis que j'ai commencé à faire ça, quand je remonte devant mon ordinateur, je sais exactement qu'est-ce que je vais écrire et le document, je travaille beaucoup plus rapidement que si je me suis installée devant mon écran et j'ai dit, mince, maintenant je dois réfléchir devant cet écran de quoi faire. Donc, j'ai commencé à comprendre comment travailler avec ma créativité pour augmenter mon niveau de performance. Et finalement, je veux, comme je t'ai dit avant, c'est pas que je veux pas les gens travailler. Je suis un high performing creative. J'ai des choses que je veux faire. Donc, pour moi, c'est logique. Pourquoi est-ce que les athlètes, ils peuvent faire des programmes d'entraînement et nous, on le font pas? Les athlètes, eux, ils vont pas les playoffs chaque jour. Ils ont des journées où ils font du sport. Il y a les journées où ils ont des repos. Il y a un système d'entraînement qui est créé pour optimiser le corps. Donc, pourquoi pas créer un système qui travaille en coopération avec notre créativité, avec nos cycles, avec nos énergies, pour pouvoir produire la meilleure qualité possible de toutes les choses qu'on veut faire, sans sacrifier notre santé, notre relation, notre vie, pour qu'on puisse aussi avoir un peu de joie. Il vaut pas la peine de travailler tout ça, de travailler. C'est tellement triste, les gens qui travaillent journée après journée, 18 heures, 12 heures, tout ça, sont en train de rater la vie.
Il y a aussi cette peur, effectivement, de rater la vie. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que tu ne peux pas vraiment rater ta vie. C'est-à-dire qu'il y a 1000 vies qui sont possibles. Exactement comme tu prenais l'exemple de New York. Et finalement, ben, ce que tu fais, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Mais c'est vrai que quand tu passes trop de temps à travailler ou quand tu as des mauvais indicateurs, tu vois, on parlait tout à l'heure des indicateurs et des personnes sur leur lit de mort et qui se disent mais j'aurais voulu moins travailler, j'aurais voulu passer plus de temps à faire quelque chose qui me plaît vraiment ou passer du temps avec ma famille, mes amis. Là oui, effectivement, je pense que ils sont sans doute passés à côté de quelque chose. Ils auraient sans doute été plus joyeux, je sais pas, plus heureux, mais en tout cas plus joyeux en faisant ça. Après, je sais pas si tu peux vraiment passer à côté de la vie. Je pense que justement c'est une peur qu'il faut aussi peut-être éteindre cette peur de passer à côté de la vie, parce que la réalité c'est que une vie elle est pleine et c'est bien comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai cette sensation moi quelque
non,
part.
Non, ouais, mais tu es complètement d'accord. J'aimerais bien, si tu me permets, il y a un poème qui est écrit en anglais mais traduit en français que je pense, j'aimerais bien juste vous lire, c'est pas long, mais je réfléchis de ce poème chaque année, en particulier maintenant quand il y a les cerisiers en fleurs. Et c'est un poème qui était écrit par un Anglais qui s'appelle D.E. Houseman, et ça s'appelle Le cerisier en fleurs. Ok, je vais te lire ça, c'est juste quelques lignes, mais je pense que c'est assez cool. Donc, le plus bel arbre, le cerisier ce jour, étale sa floraison sur ses branches. Aux abords de la forêt, revêtu de blanc et prêt pour les Pâques. Au jour de mes 70 ans, 20 ne reviendront pas, Et enlevé à 70, il n'en reste que 50 seulement. Et pour admirer les choses en fleurs, 50 printemps sont si peu. Par les sentiers de la forêt, j'irai voir couvert de neige le cerisier.
Hmm.
Et cette idée, en anglais, ça dit « Of my 70 years and 10, 20 will not come again. And if you take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. And about the woodlands, I will go to see the cherry hung with snow. » Donc, chaque fois que je vois les hérissiers, je pense qu'on n'a qu'une quantité limitée des printemps qu'on peut célébrer, qu'on peut fêter. Et chaque printemps, je lis ce poème et j'en réfléchis parce que la vie est tellement courte. Mm-hmm. Et tu sais, j'ai perdu ma mère en novembre de l'année passée. Et ça m'a vraiment choquée, mais on n'a pas des garanties. On pense toujours qu'on a du temps. On pense toujours, je travaille maintenant, mais dans le futur, je pourrais faire ça. Mais on n'a aucune garantie d'avoir un lendemain. Et j'aimerais bien que les gens, s'ils prennent une chose, c'est que c'est possible de rêver d'un système différent, que je ne suis pas en train de dire ne travaillez pas, mais je suis en train de nous encourager comme une communauté, comme une société, de créer des autres manières de travailler qui sont plus humaines pour nous permettre de faire du travail qu'on aime, de créer des choses qui sont jolies, d'être productives, mais aussi de pouvoir être des êtres humains, de pouvoir vivre, de pouvoir aller voir les cerisiers qui fleurent. Parce que c'est tellement triste que maintenant, on regarde en quelqu'un, on dit « Ah, Elon Musk, il dort dans ses usines. » Et au lieu d'être triste, au lieu de dire « Est-ce que ça va ?» C'est clairement, il y a des problèmes. De dire « Oh, wow, cool, regarde qu'il est investi dans le succès de son entreprise.
Mm-hmm. »
Donc, je veux juste nous donner l'opportunité de mieux vivre un tout petit peu parce que toutes ces idées, c'est en train de nous voler ces petits moments de la vie.
Complètement, complètement. Non, c'est passionnant. C'est passionnant. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ça me semble assez clair, mais en même temps, c'est une question que je pose toujours sur le podcast.
J'adore, mais ouvrez la porte à inviter votre créativité, votre imagination, à vous challenger, de créer des systèmes, de challenger les systèmes qui existent parce que c'est pas la seule manière de travailler. Et claquer la porte sur ces idées toxiques, arrêter de culpabiliser les gens pour rien faire. Je veux claquer cette porte, de les enlever de tous les réseaux sociaux, de les ignorer, de les effacer. Si j'avais un pouvoir illimité, je les effacerais. Et d'encourager les gens, en fait, de créer un système de mieux vivre et de mieux travailler. Parce que le travail, c'est bien, mais c'est pas la vie, quoi.
Non, complètement. Merci beaucoup, beaucoup, Raaf. C'était passionnant.
Ben merci à toi pour me donner l'opportunité. J'espère que vous avez bien compris avec mon français. Mais,
c'était parfait, vraiment.
C'est super gentil.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !